Oui, répéta-t-il, je vous reconnais bien. Ce géant au loin, dont la tête émergeait au-dessus de tous les fronts, c'était Robert d'Artois, son turbulent parent. Une haute femme à quelque distance retroussait ses manches d'un geste d'accoucheuse. La vue de la comtesse Mao rappela au roi les princesses condamnées. « Le pape est-il élu ? » demanda-t-il. « Non, sire. » Plusieurs problèmes se bousculaient, s'enchevêtraient dans son esprit épuisé. Chaque homme, parce qu'il croit un peu que le monde est né en même temps que lui, souffre, au moment de quitter la vie, de laisser l'univers inachevé. À plus forte raison, un roi. Philippe le Bel chercha du regard son fils aîné. Louis de Navarre, Philippe de Poitiers, Charles de France se tenaient au chevet du lit, flanc à flanc, et comme soudés devant l'agonie de leur géniteur. Le roi dut renverser la tête pour les voir.
« Pesez, Louis, pesez, murmura-t-il, ce que c'est que d'être le roi de France. Sachez au plus tôt l'état de votre royaume. »
La comtesse Mao manœuvrait pour se rapprocher, et l'on devinait bien quel pardon ou quelle grâce elle se disposait à arracher au mourant. Frère Renaud adressa au comte de Valois un regard qui signifiait « Monseigneur, intervenez ». Louis de Navarre, dans quelques moments, serait roi de France, et nul n'ignorait que Valois le dominait complètement. Aussi l'autorité de ce dernier croissait-elle à proportion, et le grand inquisiteur se tournait vers lui comme vers la puissance véritable. Valois, coupant la route à Mao, vint se placer entre elle et le lit. « Mon frère, dit-il, n'avez-vous rien à changer dans votre testament de 1311 ?»«
Nogaret est mort, répondit le roi. »
Valois hocha le front, tristement, vers le grand inquisiteur, lequel, aussi tristement, écarta les mains comme pour déplorer qu'on eût trop attendu. Mais le roi ajouta
« Il était exécuteur de mes volontés. »
« Il vous faut alors dicter un codicille pour nommer à nouveau vos exécuteurs, mon frère, » dit Valois.
« J'ai soif, » murmura Philippe le Bel.
On lui remit un peu d'eau bénite sur les lèvres. Valois reprit « Vous désirez toujours, je pense, que je veille au respect de vos volontés. »
« Certes, et vous aussi, Louis, mon frère, » dit le roi en regardant le comte d'Evreux.
Maillard avait commencé d'écrire, prononçant à mi-voix les formules rituelles des testaments royaux. Après Louis d'Evreux, le roi désigna ses autres exécuteurs testamentaires. À mesure que ses yeux, plus impressionnants encore maintenant que leur large pâleur se troublait, rencontraient certains visages autour de lui. Il nomma ainsi Philippe le Converse, et puis Pierre de Chambly, qui était un familier de son second fils, et encore Hugues de Bouville. Alors, Enguerrand de Marigny s'avança et fit en sorte que sa massive personne fût bien en vue du mourant. Le coadjuteur savait que, depuis 2 semaines, Charles de Valois ressassait devant le souverain affaibli ses griefs et ses accusations. « C'est Marigny, mon frère, qui est cause de votre souci. C'est Marigny qui a mis le trésor au pillage. C'est Marigny qui a déshonnêtement marchandé la paix de Flandre. C'est Marigny qui vous a conseillé de brûler le grand maître. » Philippe le Bel allait-il, comme chacun d'évidence s'y attendait, citer Marigny parmi ses exécuteurs, lui donnant par là même une ultime confirmation de sa confiance? Maillard, la plume levée, observait le roi. Mais Valois dit très vite « Le nom brillait, je crois, mon frère !» Et il eut pour Maillard un geste impératif qui signifiait de clore la liste. Marigny, blême, serra le poing sur sa ceinture et, forçant la voix, prononça « Sire, je vous ai toujours fidèlement servi. Je vous demande de me recommander à Monseigneur votre fils. » Entre ces deux rivaux qui se disputaient son esprit, entre Valois et Marigny, entre son frère et son premier ministre, le roi eut un moment de flottement, comme il pensait à eux-mêmes et bien peu à lui.
« Louis, dit-il avec lassitude, qu'on ne laisse point Marigny s'il prouve qu'il a été fidèle. »
Alors Marigny comprit que les calomnies avaient porté. Devant un abandon si flagrant, il se demanda si Philippe le Bel l'avait jamais aimé. Mais Marigny connaissait les pouvoirs dont il disposait. Il avait en main l'administration, les finances, l'armée. Il savait, lui, l'état du royaume, et qu'on ne pouvait, sans lui, gouverner. Il croisa les bras, releva son large menton et, regardant Valois et Louis de Navarre de l'autre côté du lit où agonisait son souverain, il parut défier le règne suivant.